Bonsoir, bonsoir à tous. Nice en rêvait depuis des années. Ça y est, la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Béatrice Duguay nous expliquera pourquoi et surtout ce que ça rapporte. Le rêve devient aussi réalité pour Clarisse Agbenienou, championne olympique pour la première fois. Mélanie Kouzelevitch a vécu ce moment incroyable à Champigny avec les proches de la judokate. Dans ce journal, on parlera également des conséquences de l'obligation du pass sanitaire pour les CDD. Et puis Cuba dénonce une attaque terroriste. Son ambassade à Paris attaquée à coups de cocktail molotov hier soir. Les responsables sont déjà à tout trouver, selon le diplomate, les Américains.
France Inter.
Un événement historique unique dans notre histoire. La réaction sur Twitter de Christian Estrosi, le maire de Nice. Il l'espérait depuis des années. Eh bien, ça y est, sa ville est désormais inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonsoir, Béatrice Duguay.
Bonsoir.
Alors, c'est prestigieux, mais pourquoi cette classification?
Eh bien, parce que Nice revendique l'invention du concept de rivière, l'invention de la villégiature, autrement dit du tourisme moderne. Au XVIIIe siècle, elle n'est qu'une bourgade, dépendance du royaume de Piémont-Sardaigne. Et puis, les rentiers, les aristocrates la découvrent pour en faire, moins d'un siècle plus tard, leur capitale d'hiver à cause de la douceur de son climat. Des jardins, des parcs, des promenades naissent et s'agrémentent de palmiers, d'orangers, d'espèces exotiques. Et l'architecture se façonne en suivant des palaces, des villas, des palais, des hôtels, des lieux de culte aussi, la cathédrale orthodoxe de Saint-Nicolas par exemple. Ce patrimoine est riche d'influences cosmopolites évidemment, celle précisément de ses visiteurs, la reine Victoria et les lords anglais, les tsars, les nobles russes, les austro-hongrois, puis les américains. Les styles se mêlent, l'art nouveau, art déco. Aujourd'hui, ce classement au patrimoine mondial de l'UNESCO s'étale sur les 7 km de la baie des Anges, la promenade des Anglais, jusqu'au cap de Nice, le vieux port, les arènes de Cimiez, la colline du château, le Mont-Boron.
Alors Béatrice, ça rapporte quoi pour une ville comme Nice d'être classée à l'UNESCO?
Eh bien Bordeaux, Le Havre, Saint-Émilion, Vichy cette année connaissent cette inscription au patrimoine qui ne rapporte pas de financement, mais c'est un véritable aspirateur à touristes. C'est une notoriété, une publicité supplémentaire pour Michel Chan, propriétaire de l'hôtel du Carré d'Or.
C'est le patrimoine, le passé il faut le faire vivre et on essaye justement maintenant de continuer cette labellisation, de la faire vivre. Ça n'est pas simplement un label qu'on colle et qu'on oublie, il faut aller au-delà, il faut mettre en valeur cette ville, il faut toujours l'agrémenter, l'embellir, l'enrichir.
Michel Chan, hôtelier avec Marion Chantreau de France Bleu Azur.
Merci beaucoup Béatrice Duguay. Donc sur cette classification historique de Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'un rêve, on passe à un autre, celui de Clarisse Agbenienou. Elle l'a fait, la judokate, déjà quintuple championne du monde et désormais championne olympique chez les moins de 63 kilos pour la première fois de sa carrière. Un parcours parfait, conclu aujourd'hui par une revanche en finale face à la Slovène Tina Stredjak, qui l'avait battue privée de l'or à Rio. Une longue journée, mais jamais de doute pour Clarisse Agbenienou.
Je me suis dit, c'est comme d'habitude, fais ce que tu sais faire. Et franchement, dis-toi, quatre combats et c'est terminé. Tu vas l'avoir, cette médaille en quatre combats. Je ne sais même pas quoi dire, c'est magnifique. Je remercie toute ma famille, je les aime tellement. Je sais qu'ils se sont levés tôt et qu'ils étaient à fond derrière moi pendant tous ces un an. Et j'ai tellement hâte de rentrer et de leur montrer toutes les vidéos que j'ai pu faire, les photos. J'ai tellement hâte.
Beaucoup d'émotions donc à Tokyo, mais aussi à près de 10 000 km de là, dans le dojo de Champigny, en région parisienne, où est licenciée Clarisse Agbenienou. Tous ses proches se sont levés à l'aube pour suivre la compétition et vibrer. Mélanie Kouzelevitch était avec eux.
Dans les dernières secondes du combat, tout le monde retient son souffle, puis c'est le Wazahari et Clarisse est sacrée championne olympique. Explosion de joie sur le tatami du dojo Roger Ginet. On crie, on s'étreint. Philippe Sudre, le président du club, est en larmes.
C'est mérité, c'est plus que mérité. 4 fois championne du monde en 4 ans, c'est exceptionnel. Merci. Voilà, je suis heureux et tout le club est heureux et fier de Clarisse. Et on va faire la fête.
Ses coéquipières Clément Sémé, Awa Camara, qui s'entraînent tous les jours avec Clarisse, elles aussi sont submergées par l'émotion.
Non mais papa,
s'il te plaît.
Non, oui, on est plus que émus. Enfin, c'est notre amie, c'est notre partenaire, c'est une grande championne. Donc on attendait que ça, elle attendait que ça, et là on sait que elle va pouvoir souffler et ça va lui faire du bien.
Je pense que là, son cœur s'est arrêté là.
Le vôtre aussi apparemment.
Ouais. On va falloir un petit peu attendre pour que ça redescende.
Une immense fierté partagée par les petits judokas du club. Avec maintenant 2 médailles au compteur, après l'argent d'Amandine Bouchard, le club se projette déjà sur l'avenir, les JO 2024 à Paris.
Et grâce à Clarisse Agbenienou, la France en est désormais à 2 médailles d'or dans ces Jeux. Mais il y a une autre star aujourd'hui côté bleu dans ces JO. Elle a 19 ans et s'appelle Althea Lorrain. La jeune femme décroche le bronze en taekwondo pour sa première Olympiade, mais elle n'arrive pas à cacher sa déception.
Je ne suis pas satisfaite de mon résultat parce que j'étais venue chercher l'or. Mais après la déception de la demi-finale, il fallait que j'aille chercher ma médaille de bronze. Et c'est une médaille olympique quand même. J'ai 19 ans, j'ai encore le temps de faire une médaille d'or. C'est toujours un honneur de pouvoir décrocher cette médaille et de la ramener.
Althea Lorrain, troisième aujourd'hui en taekwondo. Et allez, on fait un point. Au total, maintenant, la France est à 7 médailles dans ces JO de Tokyo. Mobiliser les gens pour qu'ils se fassent vacciner. Nouvel appel à la population lancé par Olivier Véran en déplacement aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Le ministre de la Santé l'annonce également. Plus de 2 millions de rendez-vous de vaccination seront ouverts dans les prochains jours. On a passé hier la barre des 40 millions de privés vaccinés. Prochain objectif, celle des 50 avant la fin du mois d'août, selon Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, invité ce matin du grand entretien de France Inter. Il reste encore 3,7 millions de personnes sans emploi de catégorie A en France, mais c'est quand même 1,3% de moins par rapport au début d'année. Le ministère du Travail a publié ce midi ses chiffres pour le deuxième trimestre. Le chômage, Marion Lourd en parle ce soir d'ailleurs avec ses invités dans le téléphone sonne à 19h20. Posez vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Une mesure sur les CDD initiée par un amendement gouvernemental est passée sous les radars. Alors que les élus de la Chambre haute et basse pensent avoir fait reculer le gouvernement, des ruptures de contrat seront bien possibles pour les salariés récalcitrants au pass sanitaire. Alors pas de licenciement, mais l'employeur pourra rendre compte le CDD ou le contrat temporaire sans indemnités en cas de défaut de passe sanitaire. Et donc, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, Delphine Simon.
Oui, c'est un mal nécessaire pour la majorité si l'on veut contenir l'épidémie et éviter un nouveau confinement. La rupture du CDD, ce serait en tout dernier recours, dit-on. Mais pour le député non inscrit Guillaume Chiche, qui a voté contre le texte, c'est un chantage à l'emploi peu productif.
Nous savons que les personnes qui encore aujourd'hui ne sont pas vaccinés sont les personnes les plus précaires. En brandissant cette menace à la précarité, on rompt le lien de confiance. C'est contre-productif avec la volonté de vacciner le plus grand nombre.
Une mesure qui va accentuer le risque de précarité, mais aussi le risque de fraude, ajoute la juriste Caroline Diard, professeure à l'EDC Business School, car dans des secteurs d'emploi déjà sous tension, l'hôtellerie ou le tourisme, l'employeur aura du mal à se passer d'une main-d'œuvre saisonnière.
Il y a des employeurs qui sont de toute façon déjà dans des situations qui sont des situations illicites, à savoir recourir à des collaborateurs sans contrat, sans déclaration URSSAF, et parfois des gens sans papier. Et ces mêmes employeurs auront, à mon avis, pas du tout de scrupules pour recourir à des collaborateurs qui ne seront pas vaccinés.
Le texte est sur le bureau du Conseil constitutionnel. À lui de statuer sur sa conformité. La décision des sages est attendue le 5 août.
Merci beaucoup Delphine Simon pour France Inter. On l'apprend aujourd'hui, Rachida Dati, mise en examen pour corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. C'est au sujet de l'affaire Carlos Ghosn. Rachida Dati était déjà visée par une enquête anticorruption du parquet national financier sur ses prestations de conseil en tant qu'avocate auprès de l'alliance Nissan-Renault, quand elle était alors présidée par Carlos Ghosn entre 2010 et 2013. L'ancienne ministre était, elle, élue au Parlement européen. Ses avocats annoncent faire appel de cette mise en examen. Sécurité renforcée aujourd'hui autour de l'ambassade de Cuba à Paris dans le 15e arrondissement. Elle a été la cible d'une attaque au cocktail Molotov hier soir. Alors l'enquête débute à peine, on ne connaît pas encore les auteurs. Mais le coupable est déjà tout trouvé pour l'ambassadeur de Cuba en France, Elio Rodriguez Perdomo. Les États-Unis sont responsables.
La campagne menée par les gouvernements américains, par des institutions américaines, crée un contexte favorable et encourage des individus violents à développer ce type d'action terroriste contre les institutions cubaines à l'intérieur du pays et à l'étranger, comme on a vu hier soir ici à Paris.
Vous avez peur pour votre sécurité aujourd'hui en tant qu'ambassadeur cubain à Paris, en France ?
Bon, nous, les Cubains, vous savez, nous sommes habitués à ne pas avoir peur. Depuis 60 ans, depuis 59, Cuba a été victime à plusieurs reprises des actions organisées avec le soutien des États-Unis. L'histoire, elle est connue. Hein. Il y a des personnes en Floride, le maire de Floride, qui a appelé il y a quelques jours à une intervention militaire à Cuba. Je n'entends pas d'autres autorités en appelant à ce type d'action agressive contre Cuba.
Elio Rodriguez Pedormo, l'ambassadeur de Cuba en France, est sur Twitter. Le ministre cubain des Affaires étrangères parle d'une attaque terroriste et l'affirme. Lui aussi, je tiens le gouvernement américain pour responsable de ces campagnes incessantes contre notre pays.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
On fait un point donc sur la météo et une nuit orageuse sur le sud-ouest, Sébastien Léas.
Oui, les premières averses vont se déclencher en cours de soirée sur le sud Aquitaine. Puis durant la nuit, les averses vont se multiplier entre les Pyrénées, le Midi Toulousain et le sud Auvergne. Cette perturbation pluvieuse et orageuse va balayer une bonne partie sud du pays pour aller finir sa course demain matin sur les Alpes et le Jura. Prévoyez d'ailleurs des débordements vers le Languedoc et l'ouest provençal. Après la mi-journée, les averses seront plus rares sur les Alpes. Demain, quelques averses circuleront aussi entre la Bretagne, la Vendée et les Hauts-de-France ainsi que sur le Grand Est. Mais elles seront peu nombreuses et généralement faibles. Contrairement à aujourd'hui, partout ailleurs, le temps sera plus sec, le ciel alternera entre belles éclaircies et paquets nuageux. Les nuages seront d'ailleurs bien prédominants au sud de la Garonne. Sur le pourtour méditerranéen, l'après-midi deviendra bien ensoleillé. Et puis la Corse bénéficiera du soleil dès le matin. Les températures restent fraîches en général, 20 à 26 degrés demain après-midi, mais tout de même plus de chaleur sur le quart sud-est avec 27 à 33, voire 34 degrés demain après-midi.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.